Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Chez les animaux, l'hibernation peut durer entre quelques semaines et quelques mois. Elle induit une modification physiologique intentionnelle et profonde, dans le but de survivre à l'hiver. La température du corps descend en dessous de 10 degrés, le rythme cardiaque et la respiration ralentissent, et la fonction cérébrale est réduite à son minimum. L'être humain, lui, n'hiberne pas, en tout cas pas naturellement. Car il y a bien en médecine ce qu'on appelle l'hibernation artificielle, quand on fait baisser volontairement la température d'un corps humain pour stopper le flux sanguin et réaliser une intervention de nature chirurgicale. C'est ce processus et son effet sur les cellules que vient décrire le physicien et professeur à la faculté de médecine de Créteil, Daniel Laurent, au micro de Robert Debré, dans ce numéro de Biologie et médecine. L'occasion d'explorer les possibilités ouvertes par le refroidissement du corps humain. On ne parle pas ici, du moins pas encore, de voyages interstellaires, avec des corps réveillés après des dizaines d'années dans l'espace, mais plutôt d'applications concrètes, qui peuvent sauver des vies, en permettant notamment des opérations cardiaques complexes. Une émission diffusée pour la première fois le 16 octobre 1970.
Monsieur le professeur Daniel Laurent, lors de notre première rencontre, vous aviez bien voulu évoquer pour nous, d'une part, les effets du froid sur les cellules, et vous aviez bien voulu également évoquer les problèmes que pose la conservation par le froid des tissus humains. Notre émission d'aujourd'hui va être plus particulièrement consacrée à une application pratique de ces données, et en particulier à l'hibernation artificielle. L'homme pense avoir résolu, non pas encore résolu, mais être en voie de résoudre le problème de la réincarnation. En effet, il existe en Amérique, et puis, dit-on, commence à exister également en France, des usines où l'on congèle les cadavres pour les conserver jusqu'à ce qu'un progrès nouveau de la science ait permis de redonner la vie à ces cadavres conservés. Nous touchons là certainement beaucoup plus à la science-fiction qu'à la réalité scientifique. Mais enfin, au moment d'aborder ce problème de l'hibernation artificielle, je vous demanderai tout de même ce qu'il faut penser de ces méthodes et de ces usines, par conséquent, de conservation de cadavres qui s'offrent actuellement dans le marché.
C'est le vieux rêve d'Edmond Abou, l'homme à l'oreille cassée, a été écrit il y a environ 60 ans. Et je ne pense pas que depuis la parution de ce roman, un grand progrès ait été fait dans cette perspective. C'est en effet de la science-fiction. Il n'empêche que le mot hibernation a été utilisé et est encore utilisé par les hommes de médecine lorsqu'ils induisent artificiellement par des procédés qui ont acquis droit de cité dans certaines indications, un abaissement volontaire de la température du corps. Vous savez que notre organisme dispose d'un système très élaboré de thermorégulation. Nous ne sommes pas comme les marmottes ou d'autres hibernants. Nous avons un système de thermorégulation qui maintient en permanence notre température centrale à un niveau constant. Il faut des circonstances particulières pour que le thermostat soit déréglé, c'est la fièvre, ou l'hypothermie, c'est-à-dire l'abaissement de la température centrale. La première circonstance est plus fréquente que la seconde. Toutefois, lorsque les dispositifs de thermorégulation, de lutte contre le froid, qui sont à notre disposition, sont défaillants, il pourra y avoir une hypothermie. Et les hypothermies accidentelles se rencontrent assez souvent chez des vieillards, chez des clochards en particulier, en période hivernale. On est amené quelquefois à voir arriver dans les hôpitaux des sujets dont la température centrale a été abaissée de 2 voire 3 degrés. Cette circonstance d'hypothermie accidentelle n'est donc pas exceptionnelle. Elle est moins fréquente, bien sûr, que la fièvre que la plupart d'entre nous avons connue.
Mais alors, monsieur le professeur, je pense aux effets que peut apporter le froid, non plus cette fois à l'échelon de la cellule, mais à l'échelon d'un organisme toujours complexe. Quels peuvent être donc, dans les échanges au sein de cet organisme, les effets du froid ?
Nous retrouverons, à ce niveau, l'effet général du froid sur les cellules et sur les tissus. La plupart des activités cellulaires, la totalité des activités cellulaires, sera réduite par le froid. Mais un certain nombre de dispositifs d'alerte, de dispositifs physiologiques d'alerte, ont été mis en place qui, eux aussi, ont des conséquences qui peuvent être, à eux seuls, fâcheux pour l'organisme. Par exemple, lorsque vous plongez la main dans l'eau froide, il y a une vasoconstriction, c'est-à-dire une diminution du calibre des différents vaisseaux de la peau. Si on va au-delà, si la durée de l'exposition au froid de la main est grande, on aboutira à des lésions irréversibles de gelure. Le mécanisme protecteur de vasoconstriction qui se produit normalement pour une agression modérée, lorsque l'agression sera durable, sera en fait un mécanisme aboutissant à une irrigation insuffisante des tissus, à une nécrose des tissus, à une gelure. C'est l'affaire des pieds gelés que l'on connaît bien dans les différentes campagnes de l'histoire.
Mais les réactions de protection suscitées contre le froid n'ont pas un effet complet et n'ont pas un effet permanent dans le temps. Par conséquent, quel est le processus de dégradation au fur et à mesure que le froid dure et s'accentue?
La réponse des différentes fonctions de l'organisme au froid est essentiellement variable selon l'organe considéré. S'il existe une inhibition des différents tissus, des différentes cellules par le froid, il existe aussi des effets spécifiques du froid sur les fonctions des organes et les lésions de gelure des tissus que l'on peut voir après le froid ne sont que l'aboutissant terminal de ces dégradations de fonctions. Toutes les fonctions sont atteintes par le froid. La fonction circulatoire. La température étant abaissée, la vitesse circulatoire décroîtra et la fréquence du cœur diminuera. La pression artérielle diminuera. Le débit de la pompe cardiaque diminuera. En ce qui concerne la fonction respiratoire, il existe également une dépression des centres respiratoires et, d'une manière générale, toutes les activités intégrées de l'organisme, les plus élaborées comme les plus simples, seront dans une certaine mesure sensibles au froid et, d'une manière générale, seront toutes inhibées par le froid. La fonction urinaire sera également altérée. Et l'on pourrait citer un catalogue complet de toutes les fonctions des différents organes, toutes les fonctions de la vie de relation qui sont plus ou moins altérées par l'exposition au froid. À condition, bien entendu, que la température centrale n'ait pas été maintenue. Nous envisageons là le cas où la température centrale s'est abaissée, où les mécanismes de protection contre le froid n'auront pas joué, où les mécanismes physiologiques de lutte contre le froid n'auront pas joué, où, bien entendu aussi, les moyens dont dispose l'homme pour se défendre contre le froid n'auront pas joué.
Monsieur le professeur, lorsque l'on prononce le mot d'hibernation, on songe tout de suite à la vie des marmottes et à la vie des ours. Mais il est bien certain que si en médecine on utilise l'hibernation artificielle, ce n'est pas pour permettre aux hommes et aux femmes de traverser l'hiver et de se réveiller au beau jour du printemps. Par conséquent, pourquoi et quand en est-on venu en médecine à pratiquer cette hibernation artificielle?
Je crois pouvoir vous dire que les premiers travaux à ce sujet ont été faits dans l'optique de freiner l'évolution des cancers. Aux États-Unis, juste avant le déclenchement de la dernière guerre mondiale, des études avaient été faites qui ont en tout cas permis sur des malades atteints de cancer à un stade hautement évolué de mesurer différents paramètres circulatoires, respiratoires, métaboliques, sous l'influence de l'induction d'un froid léger. Il ne s'agissait pas, dans ses études, d'atteindre des températures aussi basses que celles qu'ont utilisées dans d'horribles et macabres institutions qu'étaient les camps de concentration, les médecins nazis. Et en particulier, au cours de ces études, on n'avait jamais voulu obtenir de coma, à l'opposé de ce qui s'est fait dans les camps de concentration. Ces études ont été reprises d'une manière beaucoup plus systématique, pendant la guerre également, afin d'étudier les réactions au froid d'aviateurs tombés en mer dans les mers polaires. De toutes ces études, il a résulté une analyse très sérieuse des différents paramètres respiratoires, circulatoires, métaboliques de l'homme soumis au froid. Bien entendu, ces études, aussi bien chez l'animal que chez l'homme, ont été mises à profit. Et l'arrivée de la chirurgie du cœur a été une des premières applications possibles de ces méthodes. De quoi s'agissait-il en fait ? De pouvoir disposer d'un temps relativement long pour pouvoir arrêter la circulation. C'est-à-dire de disposer des 10 voire 15 minutes nécessaires pour que le chirurgien puisse ouvrir le cœur, réparer une lésion et refermer le cœur. Il fallait donc disposer d'un temps suffisamment long pour que ces gestes soient de précision suffisante, mais il fallait aussi connaître la réversibilité des phénomènes. Il fallait non seulement étudier la manière dont le froid a été induit, mais aussi la manière dont le réchauffement devrait être poursuivi. Nous avons vu antérieurement qu'il était possible d'arrêter la circulation si les tissus étaient placés dans des conditions de froid suffisantes. Il est donc possible d'imaginer, et ceci a été répété de très nombreuses fois, que la circulation soit entièrement arrêtée pendant un temps suffisamment long pour permettre l'acte chirurgical délicat au niveau des cavités cardiaques, mais pas suffisamment long toutefois, pour que les lésions des fonctions entraînées par l'abaissement thermique soient irréversibles. D'où la codification d'une méthode d'hypothermie provoquée généralement par immersion du sujet dans un bain d'eau glacée, d'où aussi la codification d'une autre méthode consistant à perfuser le sujet par voie sanguine et de lui apporter par voie sanguine les frigories nécessaires à l'abaissement thermique souhaité. Dans les deux cas, un arrêt circulatoire est possible d'une durée relativement longue qui permet au geste chirurgical d'obtenir le résultat escompté. Bien entendu, nous retrouverons là ce que nous avons vu l'autre jour concernant la durée et de la conservation et le niveau thermique. Plus le niveau thermique sera bas, plus long pourra être l'arrêt circulatoire tolérable sans danger. Il y a toutefois des difficultés à prolonger au-delà de 20 minutes, une demi-heure, en toute sécurité, un arrêt circulatoire induit par le froid. Les problèmes délicats sont en effet liés non seulement aux dégâts tissulaires que le froid a pu commettre, mais aussi au mode de réchauffement qui devra bien entendu suivre la période d'arrêt circulatoire. On retrouve là la notion d'hétérogénéité thermique de l'individu. Il est très rare que l'on puisse obtenir, même par perfusion sanguine, des températures identiques dans tout le noyau central que constitue notre individu. Il faudra donc, si l'on veut surveiller d'une manière rationnelle les effets de l'arrêt circulatoire, en connaître les conséquences au niveau des différents tissus, dès l'instant où le réchauffement de ces différents tissus posera des problèmes d'hétérogénéité.
Mais monsieur le professeur, avec l'évolution des techniques,
il arrive toujours un moment où une technique, bien qu'elle soit en pointe, se trouve dépassée par une autre technique. Est-ce que, justement, en matière d'application chirurgicale du froid, d'autres méthodes n'ont pas relégué au second plan l'application du froid ?
Oui, il est parfaitement exact que cette méthode d'arrêt circulatoire induit par le froid, par immersion, est maintenant dépassée. Nous avons d'autres moyens de réaliser des opérations à cœur ouvert, et ces moyens sont liés au développement des techniques de circulation extracorporelle qui, depuis 15 ans environ, se sont suffisamment raffinées pour être suffisamment sûres et permettre aux chirurgiens une grande précision dans ses gestes, une grande efficacité dans les réparations qu'il commet. De ce fait, la technique de l'arrêt circulatoire induit par le froid par immersion ne paraît plus du tout d'actualité. Toutefois, et comme souvent en matière scientifique, cette hypothermie induite par l'immersion ou par la perfusion de sang froidi a conservé quelques avantages qui sont ajoutés à la technique de circulation extracorporelle. La plupart des sujets opérés en circulation extracorporelle sont maintenus à une température centrale de l'ordre de 32 ou 33 degrés centigrades, soit un abaissement thermique modéré par rapport à ce que l'on avait espéré faire au début de l'arrêt circulatoire. L'avantage essentiel de cette tactique est de pouvoir limiter le débit de perfusion du sujet, de pouvoir réduire le débit de perfusion des tissus, puisque les tissus placés dans ces conditions d'hypothermie modérée, très modérée, mais tout de même, peuvent recevoir un peu moins d'oxygène que dans les conditions normales, et de ce fait, être irrigués d'une manière un peu moins importante. D'où l'intérêt supplémentaire qui consiste à perfuser le sujet à un débit moindre, ce qui entraîne des dégâts moindres des cellules sanguines comprimées dans les différentes parties constitutives des pompes extracorporelles utilisées dans ces techniques de circulation artificielle. Autrement dit, l'hypothermie sert encore dans ce domaine, l'hypothermie artificielle sert encore la chirurgie cardiaque d'une manière accessoire, mais d'une manière très utile. Voilà pour la chirurgie. Beaucoup de neurochirurgiens avaient espéré aussi obtenir des possibilités nouvelles de traitement de lésions chirurgicales par le froid.
Mais n'est-il pas une application possible du froid en matière chirurgicale par localisation très précise ?
Oui, le froid peut être utilisé d'une manière fort commode pour localiser des régions du système nerveux central qui ont besoin, du fait d'une maladie existante, d'être chirurgicalement traitées. Je prends l'exemple de la chirurgie stéréotaxique, qui est une chirurgie faite avec un repérage extrêmement précis des structures intracrâniennes. Il est possible, lorsque l'on enregistre l'activité des différents amas neuroniques au niveau des structures cérébrales, de paralyser provisoirement par le froid certaines de ces structures, de vérifier donc qu'on a bien atteint par la localisation que l'on a voulu faire la région qui est responsable du trouble, et ainsi le neurochirurgien est guidé dans son acte curateur. Les neurochirurgiens avaient d'ailleurs espéré faire encore mieux grâce au froid. Ils avaient espéré, en particulier, sous le couvert d'un arrêt circulatoire de longue durée, traiter des lésions extrêmement étendues de la vascularisation intracérébrale, des malformations ou des tumeurs vasculaires. Pour ce faire, il était possible, et cela a été réalisé, d'envisager une hypothermie profonde avec circulation extracorporelle, car pour réaliser une hypothermie profonde, il était indispensable, si l'on voulait disposer d'un arrêt circulatoire de longue durée, de perfuser le sujet avec les frigories nécessaires au niveau d'hypothermie souhaité. On n'aurait pas pu l'obtenir par une hypothermie de surface, par une hypothermie d'immersion, car on aurait eu immanquablement, à la température de 30 degrés, un arrêt cardiaque dont la conversion aurait pu être difficile. Grâce à la perfusion de l'ensemble du corps, après ouverture du thorax, mise en place des canulations, il est possible de perfuser l'ensemble du corps, d'abaisser la température du sujet et ainsi de disposer de l'arrêt circulatoire nécessaire à des manœuvres chirurgicales intracrâniennes extrêmement longues. La ressuscitation du sujet ne posant pas de problème lors de du réchauffement. Toutefois, des difficultés ont été rencontrées. Cette méthode n'a pas acquis droit de cité courant.
Peut-il y avoir, de façon permanente, pour certaines maladies, une thérapie par le froid?
Oui. Bien entendu, j'écarterai le sujet du sujet l'application du froid pour des lésions extrêmement localisées, qui sont les pratiques courantes chez les dermatologistes. Mais l'utilisation du froid, de l'abaissement de la température du sujet tout entier est quelquefois utilisée, a été quelquefois utilisée, est encore quelquefois utilisée dans des états de grande détresse. En particulier pour ce qui concerne des réanimations extrêmement difficiles chez des sujets en grande insuffisance circulatoire, chez des sujets pour lesquels se pose le problème d'un choc très sévère. Le froid pourrait peut-être, sous certaines conditions, permettre de franchir ce que les médecins appellent volontiers, sans savoir très bien ce que cette notion contient, un cap critique qui pourrait durer peut-être quelques jours. Toutefois, dans ce domaine, il faut être extrêmement circonspect, car la thérapeutique sous froid, par les différentes drogues que l'on peut être amené à utiliser chez ces patients, est certainement différente de la thérapeutique que l'on pratique communément chez un sujet de température normale. D'autre part, les conséquences du froid sur les différentes fonctions, aucune fonction, nous l'avons dit, n'est épargnée. Ces différentes atteintes des fonctions ne sont peut-être pas aussi bénignes qu'il a été dit. Enfin, peut-on vraiment espérer, dans ce domaine, obtenir grâce au froid le passage de ce cap critique? Y a-t-il des arguments expérimentaux ou même médicaux suffisamment solides? Il faut bien dire que la déception a suivi l'enthousiasme dans ce domaine, et qu'en particulier, la pharmacologie qui a été appliquée à l'homme dans ses différents états de détresse, elle n'est pas suffisamment bien connue pour qu'actuellement l'on puisse impunément proposer une telle méthode, même dans des cas difficiles, même dans des cas désespérés.
Mais monsieur le professeur, après cette étude approfondie du froid que vous avez bien voulu présenter pour nos auditeurs lors de ces deux émissions, il serait peut-être bon d'aborder en conclusion un aspect beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique, et qui est celui de l'adaptation de l'organisme humain aux diverses conditions du froid.
Il est certain que l'homme dispose de mécanismes de régulation pour pouvoir lutter contre les différents climats d'exception auprès duquel il peut se trouver confronté, le chaud, le froid. Ces mécanismes d'adaptation ou de lutte, plus exactement, de lutte contre un élément d'environnement qui ne lui est pas familier, ces mécanismes mettent en jeu toutes les fonctions de l'organisme et, bien entendu, singulièrement, le système nerveux central. Dans les conditions où un sujet, habitué à certaines conditions d'ambiance, se trouve transplanté dans un autre climat, et spécifiquement pour aujourd'hui dans un climat froid, les systèmes régulateurs qui lui permettent de s'adapter au froid vont probablement, vous le concevez bien, être sollicités.
c'est le problème plus général de l'acclimatation. Un sujet qui sera transplanté dans des conditions nouvelles, dans un climat plus froid que celui auquel il est habitué, va s'adapter, va s'acclimater. Cette acclimatation se fera grâce à la mise en jeu de la plupart des fonctions qui étaient sollicitées normalement dans une circonstance toute particulière de l'exposition brutale et temporaire. Ce sont les mêmes mécanismes qui vont jouer, mais ce faisant, les mécanismes d'acclimatation sont des mécanismes qui permettent de s'épargner les conséquences pour l'organisme lui-même d'une lutte sévère contre le froid, et ce serait la même chose pour la lutte contre le chaud. En dehors donc des dispositifs de sécurité qui permettent l'attaque d'un facteur d'environnement aigu subit, il y a des dispositifs fonctionnels permettant d'atteindre un régime de croisière économique pour l'organisme et bénéfique pour lui. Bien sûr, certains facteurs ethniques, certains facteurs nutritionnels favorisent de telles adaptations, de telles acclimatations.
Le professeur Daniel Laurent a parlé essentiellement de l'hibernation. L'hibernation, nous savons ce que c'est. En histoire naturelle, on appelle ainsi un état d'engourdissement ou de léthargie dans lequel quelques mammifères de nos climats, comme la marmotte par exemple, passent presque tout le temps que dure la saison froide. Eh bien, cet état d'hibernation a été provoqué artificiellement, ainsi que le professeur Laurent l'a parfaitement indiqué, au bénéfice des malades et aussi au profit des chirurgiens qui ont pu ainsi exécuter certaines opérations qui eussent été dangereuses sans ce refroidissement. Il faut dire, sans assurer pour autant qu'il s'agit là d'une méthode démodée ou abandonnée, que les espoirs que ces techniques avaient fait naître n'ont pas été tous réalisés. Les chirurgiens pensaient pouvoir utiliser cette technique dans beaucoup de cas, rendant ainsi leur chirurgie plus sûre et leurs résultats plus favorables. Ils ont été obligés d'en revenir, si vous me permettez de parler ainsi, et finalement, cette hibernation provoquée est passée, comme l'a indiqué le professeur Laurent, au second rang. Les médecins, de leur côté, avaient eu, eux aussi, des espoirs. Ils pensaient obtenir des résultats, sinon décisifs, du moins importants, dans certains états gravissimes, des états de mal épileptiques, des états de mal asthmatiques, que les méthodes traditionnelles ne parvenaient pas à juguler. Certains états aussi, comme le professeur Laurent l'a rappelé, d'infection suraiguë. Là encore, bien des espérances ont dû être abandonnées et les médecins, pas plus que les chirurgiens, ne recourent d'une façon courante, d'une façon habituelle à ces techniques, qui sont certes fort importantes du point de vue théorique, du point de vue de la biologie, mais qui n'ont pas, au moins pour le moment, des applications pratiques que l'on puisse qualifier de décisives.
C'était le deuxième et dernier numéro de Biologie et médecine de Robert Debré, consacré au froid et à l'hibernation artificielle, avec le professeur et physicien Daniel Laurent. Première diffusion le 16 octobre 1970.